Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 143e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h. On se retrouve pour une petite sélection de l'actu, sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Monsieur Fasquille.
Ça va bien?
Oui, écoute, impeccable. Il fait beau. La nuit vient de tomber là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est l'agression. Ouais. On enregistre ça le jeudi soir, hein, comme vous le savez. Et d'un coup, je me dis, mais j'aurais peut-être dû mettre de la lumière, mais bon, excusez-moi. Bref, ça n'a rien, c'est pas très intéressant, mais ça influe sur la qualité du podcast, évidemment.
Petite dose de vécu. Allez, on passe tout de suite au gaming avec le sketch qui n'en finit pas, Stadia.
Alors, du vécu aussi. Non, mais c'est important de vous donner des informations sur pourquoi il faut continuer à ne pas acheter Stadia. En tout cas, l'offre pro qui est payante. Donc, vous savez que Stadia, c'est l'offre de Google. Ils ont un magasin en ligne qui veut aller concurrencer Steam et compagnie. Mais il y a une offre donc pro où on s'abonne et on a des jeux offerts tous les mois, comme sur PlayStation Plus, ce genre de choses. Et donc ce mois-ci, nous avons des nouveautés comme Hitman de 2016, qui est d'ailleurs gratuit sur l'Epic Game Store cette semaine. Donc,
c'est un excellent jeu, mais bon, c'est vrai que ça date un peu et que je pense que tout le monde l'a déjà retourné dans tous les sens.
Voilà, donc bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Il y a un truc qui s'appelle Gunsport, Hello Neighbor, Metro Last Light Redux, donc pareil, encore des nouveautés ou des trucs vachement attendus. Ember Windbound, qui sera dispo dès le 28 août, on est super content. Et en fait, la seule vraie nouveauté un petit peu intéressante, c'est le Super Bomberman Air Online, qui est en fait une exclusivité. Et oui, ils ont réussi à dealer une exclusivité. Alors, c'est Bomberman, hein, donc au niveau de la nouveauté, au terme de gameplay, ça va aller très vite. Il n'y en a pas. En revanche, là, c'est une version un petit peu rigolote, puisque c'est sous forme de Battle Royale à 64. Bah, ça rejoint un petit peu, ça emprunte un petit peu d'idées au niveau de ce qu'on a déjà vu sur des Tetris, les Tetris Online qui sont, enfin, la version officielle que nous avons chez Nintendo. Il y a des versions un peu moins officielles qui traînent sur le net, où on va se retrouver justement à plusieurs tableaux, on s'affronte, et à la fin, en fait, ça va merger les tableaux, si tu veux. Mmh. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire tenir 75 joueurs, qui sont évidemment pas sur le même écran dès le départ, sinon ça serait sacrément le bordel. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que bah, c'est toujours pas mort, mais...
mais c'est toujours pas intéressant non plus.
Voilà, c'est compliqué quand même, hein. Donc moi, je sais pas, c'est un petit peu mon ovni, je les regarde et je me dis, putain, mais à un moment, soit ils font un truc extraordinaire, soit ils tirent sur la prise. Mais pour l'instant, c'est toujours un petit peu rigolo à suivre, comme ça, un petit peu loin. C'est mon Star Citizen de chez Google.
Et puis on reparle de Fall Guys dont on avait déjà parlé la semaine dernière.
Ouais, parce qu'on en avait dit, ouais, il y a des trucs un peu moyens, tout ça, machin. Bon, ouais, personne nous écoute, hein, c'est officiel. les mecs, ils ont fait 7 millions de ventes sur Steam.
Pas mal.
2 millions de ventes en une semaine. Donc là, ils en sont à 7 millions. En fait, le chiffre est déjà caduque, hein, puisque...
Suite au podcast, c'est ça.
C'est un truc de ouf, tu vois. Non, mais au secours, quoi. Ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant qu'ils nous... Ah, faut peut-être y jouer. Achetons-le.
C'est ça.
Donc, c'est le jeu aussi le plus downloadé de l'histoire du PlayStation Plus.
Okay.
Donc j'ai envie de vous dire que effectivement il y avait une demande, il y avait une sorte de besoin d'un jeu où il y a pas de flingue et pas de first person shooter et en plus ça cartonne en stream. Donc voilà, comme l'a fait remarquer un streamer assez connu américain cette semaine, c'est un petit peu normal parce qu'il y a 3 boutons, c'est pas très compliqué comme jeu, mais en même temps c'est hyper chaud de gagner. Donc voilà, tout le monde peut s'y mettre et puis pester quand ils n'y arrivent pas, parce que finalement gagner reste très difficile malgré la simplicité du jeu. Donc c'est assez rigolo. D'ailleurs, il y a toujours des cheats et c'est toujours la baston contre les cheaters. Et il y avait une astuce à la con qui était bien pratique pour ces derniers malheureusement, qui consistait à se faire un compte dans le family sharing de Steam et se partager ce compte avec soi-même pour ne pas se faire bannir son compte principal, mais juste ce nouveau compte en fait avec Fall Guys dessus. Et donc là ils sont un peu vénères et du coup maintenant ils te bannent toute la famille. Donc si le petit dernier n'arrive pas à gagner, ou papa d'ailleurs, hein, peut-être il triche le soir et vous n'êtes pas au courant, si vous dit le jeu marche plus, c'est peut-être de sa faute. Donc voilà, faites attention, ils sont très très vénères, parce qu'effectivement c'est tout l'intérêt du jeu, comme dans tous les Battle Royale, et voir des mecs qui trichent un jeu comme Fall Guys, bon déjà faut pas avoir de vie, mais les développeurs vont pas se laisser faire non plus.
Et puis on reparle d'Amazon même, puisqu'ils nous sortent un MMO là, c'est ça? Ils ont décidément pas encore décidé de mettre la clé sous la porte.
Ah, mais non, on en a déjà parlé, Amazon Gaming, qui n'ont pas lâché l'affaire. On avait déjà parlé du report de New World, leur MMO basé dans une espèce d'époque un peu chelou, conquistador, débarquement en Amérique du Sud, mais c'est pas l'Amérique du Sud, c'est un autre continent, tout va bien. Et en fait, il y avait une bêta qui était dispo, enfin on pouvait se préinscrire à une bêta qui est actuellement en route. Mais pour ça, il fallait s'inscrire avant le 9 juillet, hein, donc vous précipitez pas. Mais si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez vu des papiers popés un petit peu partout. Il y a tous les streamers de la Terre qui sont en train de faire le tour du jeu. Mais c'est vraiment une bêta pour vérifier que on va dire que les bases sont bien en place. Le titre, en fait, fonctionne très bien. Tu vois que le jeu était quand même prévu pour sortir là, maintenant, tout de suite. Et que, là, ils essayent de comprendre. Bah, pourquoi c'est pas fun? Qu'est-ce qui reste à rajouter? En fait, a priori, il y avait un gros problème de contenu, endgame, c'est-à-dire que tout le contenu haut level, il était pas très fourni, et tu roulais sur le jeu un petit peu trop facilement, puis après, tu te barres, et comme ce sont des jeux qui gagnent de l'argent avec les abonnements, n'est-ce pas? Si les gens s'en vont après, ça n'est pas très rentable. Donc, ils sont en train de corriger tout ça. La date, c'est 2021, mais on n'a pas de plus de précision. En tout cas, je reste sur mes impressions, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un titre, auquel j'ai pas envie de jouer, je vais pas vous mentir, hein. Le design est vraiment un truc, il m'accroche pas du tout, ce jeu. J'ai pas envie de jouer un mec avec les chapeaux de l'époque. Les ennemis, c'est bizarre. Alors après, attention, c'est un MMO assez dynamique, hein. C'est plus du target à la World of Warcraft, hein. C'est des systèmes qu'on a qui est inspiré des derniers MMO plutôt coréens, pour le coup, où il faut viser pour pouvoir toucher un ennemi, etc. Donc les combats sont très dynamiques, il y a plein de bonnes idées. En termes de gameplay, le retour des gens qui sont dessus sont plutôt positifs. Enfin, les retours, du coup. Et on est sur un titre qui est prometteur. C'est pas le problème. C'est que moi, à titre personnel, vraiment, ce design est... Voilà, faire évoluer ce perso, je m'en fous, quoi. Autant prendre une grosse vachette et le faire devenir un gros guerrier dans World of Warcraft, ça m'avait éclaté à l'époque, ou un mort-vivant voleur et tout... Mais celui-là, j'arrive pas à me projeter, ça m'intéresse pas, le design des persos est un peu chelou, et puis vraiment le settings de base est un peu mouif pour moi. D'ailleurs, il faut préciser que l'équipe de dev a bien, c'est bien écarté des problématiques de colonisation, tu vois, parce que évidemment. Le
c'est un peu touchy.
Voilà, cette histoire de Médidon, t'es quand même sur des bateaux qui vont explorer des pays, et puis tu t'arrives et t'en prends possession, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, en fait, ils disent, mais attendez, c'est un continent imaginaire, et puis plus vous allez avancer dans l'histoire, vous allez voir, ça n'a rien à voir, tout va bien, posez cette arme. Écoutez, on verra bien, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais bon, ça fait partie des trucs qui font que moi, effectivement, j'avais du mal à me projeter. On verra ce que ça donne quand le titre sera disponible en 2021 pour l'instant, patience.
Et puis on va parler de Diabotical, j'ai failli me planter. Diabotical et pas ouais. Diabolical.
Ouais, je me rappelle une fois sur deux de ce titre, le nom m'échappe, mais bon, c'est le jeu avec les petits robots en forme de boule, voilà, vous pouvez pas l'oublier celui-là. C'est un FPS qui est en développement depuis 2016, on en a déjà parlé sur le site, on en a parlé dans le podcast, on a enfin la date de sortie, donc c'est le 3 septembre prochain. Il avait été financé via Kickstarter en 2016 et il sera finalement free-to-play, donc ce changement avait créé un scandale entre guillemets. Ils avaient carrément remboursé les gens qui avaient payé pour le jeu et filé des clés même aux gens qui avaient demandé le remboursement pour la bêta, voilà, en disant on comprend, mais on veut que vous continuiez à nous aider à tester les serveurs, etc., les nouvelles features. Donc ça sera dispo en exclusivité sur l'Epic Game Store et le résultat, moi j'y joue depuis un moment parce que là il y a eu quand même pas mal de bêta. On est vraiment dans du Quake-like pur jus à l'ancienne, donc il faut dépoussiérer vos skills en rocket jump et compagnie.
C'est pas pour moi.
Là, il faut pas dormir, hein, c'est compliqué. J'avoue qu'en plus, il y a des mecs qui sont toujours autant des monstres à ce genre de jeu. Donc, sur certains serveurs, on se fait vraiment dépouiller, c'est compliqué. Mais bon, comme il sera free to play, vous pouvez aller voir. Maintenant, j'espère qu'il y a encore une place pour ce genre de jeu. Il y aura un éditeur de niveau, je pense, à terme, etc. Mais j'espère qu'il sera mieux marketé, mieux suivi, et qu'il aura plus de succès, ce qui permettra de faire ce que je viens de dire. Parce que les Quake Arena et les Unreal Tournament n'ont pas bien vieilli et les trucs qui sont sortis récemment n'ont pas vraiment fonctionné. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas là, en termes de customisation, je veux dire, c'est des espèces de boules robots qui sont assez mignons et complètement débiles que tu peux taguer. Enfin du coup, ils ont fait c'est des œufs en fait. Tu vois, donc ils ont fait des visages.
C'est des BB-8. Hein.
C'est ça. Donc c'est des BB-8 avec des trucs chelous pour des bras et les jambes et les tenir les armes. Donc vous verrez, c'est en termes de design et de customisation, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y aura quand même un public. Et puis, bah, c'est un des rares modernes dans le genre. Donc j'espère que ça va fonctionner.
Et puis des news enfin de Hitman 3 que moi j'attends, tiens, du coup là, bah c'est ouais. Plus ma cam.
Bah Hitman, voilà, hein, on est fan depuis des années. Bon, Hitman 3, on n'a pas beaucoup de news, on a juste enfin la date de sortie confirmée. Ça sera le 20 janvier 2021. Donc si vous n'avez pas fait le 1 et le 2, c'est le moment de vous, voilà, hein, on s'y met. C'est maintenant.
Peut-être rappeler aussi, puisque je pense qu'on l'avait pas fait, c'est que ce sera une exclue épique de nouveau et que ça fait grincer des dents.
Oui, mais alors moi j'allais parler, évidemment ça fait grincer des dents, mais bon les gars, va falloir vous y faire, hein. Ils sont là, ils ont pas l'air de vouloir partir.
Ah non.
Puis en plus ils ont donné quand même a priori pour avoir l'exclu qui est pas mal de fric à nos amis développeurs de cette excellente série, donc quelque part je n'arrive pas à les détester. Donc ils confirment la mise à niveau aussi, il sera dispo quand vous achetez le jeu sur PS4 en version numérique ou sur la Xbox Series X, toujours de version digitale, hein, et ben vous aurez la version PS5, Xbox Series X. J'avais déjà dit Xbox Series X, mais vous m'avez compris, hein. Si vous achetez la version actuelle, en tout cas, vous aurez la prochaine version en mise à niveau gratos. C'est pas le cas de tous les jeux, attention, hein, c'est pas automatique, faut vraiment que le développeur soit d'accord avec ça. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est les good guys, on le savait, c'est confirmé. Donc vous n'aurez pas besoin d'attendre votre nouvelle console pour commencer à poncer le jeu.
Et puis encore une fois, beaucoup de dollars et de brousouf pour International.
Voilà, The International, le plus gros tournoi Dota 2 va encore exploser les scores. Vous me dites, mais dis donc, CAF, The International 10, il n'y en a pas cette année. Oui, c'est pour ça que le score va être vraiment atomisé. Normalement, on devrait y être là, d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Soit la finale aurait déjà dû jouer, soit on devrait être en plein dedans. Mais bah, le tournoi avec notre ami Covid-19 a été complètement annulé. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se tenir. Mais comme tous les ans, en fait, Valve avait lancé la récolte de fonds, puisque ce tournoi, en fait, sa dotation, elle est financée par un quart du prix du Battle Pass. Le Battle Pass pour Dota 2, il est entre 10 et 50 dollars en fonction du nombre de niveaux gratos de feignants que vous voulez récupérer directement au niveau au moment de l'achat. Et ce Battle Pass sera disponible jusqu'au 19 septembre, donc on va encore grimper. Et là, en fait, l'ancien record, c'était déjà un truc de dingue, c'était 34,3 millions de dollars, et là, on est déjà à 34,4. Presque 4 en fait, millions de dollars. Donc on sera largement, à mon avis, à 34,5 millions de dollars pour le 19 septembre. Et ça veut dire que tout ce gros tas de dollars va être partagé par les équipes qui gagneront The International 10, on ne sait pas quand. ça sera la surprise. Et puis je ne sais pas du tout d'ailleurs s'il n'y en a pas du tout cette année. Et c'est quand même bien parti pour. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce que Valve, ils vont certainement refaire un Battle Pass. Mais du coup, le prix de ce prochain Battle Pass, tu vois, qu'est-ce qu'ils en foutent, enfin,
ouais. C'est compliqué.
Donc je pense qu'on peut avoir des chiffres historiques assez rapidement. Ça sera marrant en tout cas si vous aimez Dota 2 en stream, si vous y jouez pas comme moi j'y joue très peu en ce moment, mais si vous aimez regarder les matchs, il y en a une tonne sur Twitch en ce moment, il y a plusieurs compétitions majeures et notre équipe fétiche, les deux vainqueurs, les doubles vainqueurs des deux dernières éditions, OG avec leur capitaine français, jouent ce week-end, donc j'espère qu'ils vont pas se faire rouler dessus. Pour l'instant, ils ont fait des trucs assez rigolos à regarder, donc ça sera vendredi soir, donc ce soir pour vous, et samedi pour leur match. Vous pouvez trouver ça sur Twitch très facilement.
Et puis on passe du côté des apps, mais pas vraiment, puisque gros récap de la fameuse guerre des 30% entre Epic et le reste du monde.
C'est ça, et j'ai pas envie de la faire, parce que c'est trop compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, un papier, en fait, un post de blog qui a été écrit par les développeurs DR Writer, qui est un soft qui est très connu dans le monde Apple, et qui est aussi très connu d'ailleurs dans le monde Android, donc c'est bien, parce qu'ils ont vraiment, eux, ils voient le truc un peu des deux côtés, déjà de base, qui rappelle que en fait, ils sont un petit peu tous pourris, mais que Apple effectivement se fout bien de la gueule, mais que ce concept même des 30%, bah, il faut effectivement que ça crève, mais c'est compliqué parce que tout le monde a des justifications de tous les côtés, et puis surtout tu peux pas dire à Apple de pas le faire si tu dis pas à Sony, Microsoft, Steam, etc., enfin Valve, de pas le faire non plus. Donc il y a un moment où il va falloir trancher, et comment ça va se passer, ça va être très compliqué, personne n'a la solution, c'est ce que je disais déjà la dernière fois dans le podcast. Bon, là ce qui est rigolo, c'est qu'en plus Microsoft s'est rangé du côté d'Epic, donc Microsoft qui se range du côté d'Epic, on sait que Microsoft s'est pris un procès dans la tronche pour abus de monopole. Je trouve ça assez rigolo, c'est un petit peu délicieux. Hein. J'avais noté dans la conduite hôpital, charité, tout ça. mais en fait, bon, il disait attention, il se range du côté d'Epic dans le cadre de la répression, en fait, on va dire, qu'avait essayé de mettre en place Apple en disant on va faire sauter les outils qui concerne justement le Unreal Engine de Epic, en plus de interdire Fortnite sur iOS. Et bon, bah là, les mecs ont fait, bah non, c'est too much. Et d'ailleurs, le premier jugement qui a été rendu, là, en urgence, entre guillemets, se range de ce côté-là, mais dit très clairement que Epic s'est bien foutu de la gueule du monde en préparant son coup. Donc, Fortnite n'est pas du tout obligatoire, enfin, Apple n'est pas du tout forcé de réintégrer Fortnite sur la boutique. En revanche, ils sont en train de mettre en place une protection pour tout ce qui est outils autour de l'Epic Unreal Engine, justement. Donc, ça sera intéressant à suivre. C'était un petit peu attendu, j'ai envie de dire, parce que la réaction d'Apple était un petit peu...
Un petit peu disproportionnée, quand même.
Voilà, toi, tu...
Mais bon, c'est de bonne guerre, on va dire.
Voilà, t'as foutu là-bas la merde en boîte, on sort tes potes aussi, ils ont rien demandé, c'est pas très gentil, quoi, tu vois. Donc là, je pense que, bon, ça va avancer, mais c'était surtout une manière de calmer tout le monde en attendant que, éventuellement, ils arrivent à se parler en dehors du système judiciaire, ce qui, à mon avis, est mal barré. Donc voilà, à suivre. Mais allez lire le papier, il est vraiment très sympa, dans le sens où, en plus, on voit le nombre de boîtes que tout le monde, ce petit monde, a racheté, et à quel point ça gobe tous les concurrents potentiels. Il y a Facebook qui est intégré dedans aussi et tout. Donc c'est un très très bon papier qui avait été linké d'ailleurs dans le forum de Geekzone, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Et puis, des news du côté d'InnoReader, qui, j'ai vu passer ça tout à l'heure, me permet maintenant de filtrer les news en double.
Ouais, c'est mes amis pour la vie. C'est, tu vois, je les aime d'amour. Il y a des mecs qui font des outils, et il y a les mecs qui font des outils avec lesquels tu bosses vraiment toute la journée. Ça. Et ça, c'est quand tu fais de la veille en permanence, comme on fait nous pour préparer le podcast ou pour bosser dans notre autre métier à côté. Bah, franchement, c'est juste génial. Donc, InnoReader, si vous savez pas ce que c'est, il y a un dossier sur Geekzone que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, mais c'est effectivement donc un agrégateur de RSS qui vous permet de suivre plein de sites facilement directement depuis la même interface. Et là, donc, ils ont sorti un truc qui va permettre d'effacer toutes les news en double, en triple, en quadruple, qui peuvent exister dans vos feeds RSS. C'est disponible à partir du plan pro, en fait, qui finance ces petits gars. Donc, franchement, si ça vous est utile, donnez-leur 50 balles par an, ça vaut vraiment le coup. C'est le meilleur outil de veille du marché. Donc là, comment ça fonctionne, cette histoire de news en doublon? Bah, imaginons que, bah, justement, Apple vient d'annoncer ses résultats financiers ou n'importe quelle boîte annonce, enfin, voilà, le type de news qui va être repris partout instantanément. Bah, vous pouvez dire, écoutez, moi, ce feed-là, je le filtre pas, mais tous les autres feeds potentiellement qui parlent de ce truc-là, j'en ai rien à foutre, toutes les news en double dégagent. Donc, en plus, c'est toi qui choisis quel site va être gardé, en fait. C'est-à-dire que sur chaque feed, tu vas décider, celui-là, les news en double dégagent, celui-là, non, t'y touches pas, je veux tout lire. Et c'est fait en background, donc c'est complètement transparent, c'est leur machine qui font le tri en amont. Donc, on ne voit pas du tout le truc, sauf si on demande vraiment d'aller regarder, d'aller refouiller dans les entrailles du feed RSS. Sinon, tout ça disparaît. C'est extrêmement pratique. Bah, si vous suivez les sorties de jeux vidéo, les annonces de, je sais pas, une dernière conférence Sony, tout le monde va dire la même chose.
Et ouais, ben là, c'est pareil avec les films Marvel. Hein. Dès qu'il y a une annonce, il s'est repris en cœur par tous les sites du monde 10-15 fois. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant à la longue.
Donc là, tu peux lui dire, tout ça, ça dégage. Tu fais le tri. Et en plus, alors, je sais, ils ont un algorithme qui est assez bien foutu, puisque tu peux lui dire si ça a le même titre ou si c'est proche, en fait. Donc, moi, j'attends de voir, là, évidemment, l'annonce, c'est tout frais, hein. L'annonce a été faite hier pour vous, si vous écoutez le podcast, dès la date de parution, donc ce vendredi 28 août 2020. Mais, donc, on verra sur la longueur ce que ça donne. Mais franchement, là, j'ai fait quelques tests déjà. Et potentiellement, ça va me changer la vie, donc je suis très content.
Et puis, nouvelle version de Firefox pour Android, et je l'ai vu passer aussi tout à l'heure, et je la trouve plutôt sympa. Je sais pas si toi, t'as pu creuser plus en profondeur déjà.
J'ai pas vraiment creusé, j'avais essayé la bêta. Ils ont modernisé l'interface, en fait, et donc maintenant, Firefox pour Android, c'est vraiment un excellent navigateur. Et évidemment, ils ont mis tous leurs efforts dans ce produit, parce qu'ils savent très bien qu'il faut que maintenant, tu aies une version mobile qui corresponde à la qualité de la version desktop. On va pas redire pour la 150e fois, si on va le redire, en fait, que Firefox en sur desktop, c'est vraiment très très bien, et que ça permet de se barrer de Google Chrome, et que effectivement le produit fonctionne très bien. Alors, tout le monde a ses préférences, évidemment. Moi, des navigateurs, j'en utilise plein, en fait, sur une journée, mais Firefox reste mon navigateur principal. Et là, cette version Android, ils ont refait l'interface, la gestion des onglets, l'accès au mode privé, etc., etc.
Tu peux avoir la barre d'adresse en bas maintenant aussi, ce qui est assez pratique quand tu le tiens d'une main. En fait, tu peux taper plus facilement dans la barre d'adresse et rentrer une nouvelle adresse. Je trouve ça assez chouette.
Ouais, en fait, c'est vraiment d'ailleurs dans le cadre de l'ergonomie à une main, c'est marqué dans leur truc. Et effectivement, ça fonctionne vraiment bien. C'est un truc que j'avais déjà vu sur Opera Touch, si je dis pas de bêtises. Enfin, qui a une interface encore plus compliquée, mais du coup, qui est déstabilisante, là, on reste dans un truc relativement classique. Donc voilà. Allez, regarde. Si vous aviez déjà Firefox Android sur votre téléphone, normalement la mise à jour automatique, vous êtes passé directement à la nouvelle version. Sinon, c'est le moment d'aller re-regarder ce que ça donne et surtout, il y a gros avantages par rapport à plein d'autres navigateurs mobiles. Il gère les extensions directement. Donc, Firefox Android, vous pouvez lui mettre au hasard un bloqueur de publicité. Mais vraiment au hasard. Hein, voilà. Il a plein d'arguments pour lui. Allez jeter un œil. C'est vraiment très, très, très bien foutu.
Allez, on passe du côté de la culture. Je voulais vous parler d'une série de télé qui s'appelle Ted Lasso. Est-ce que tu as regardé ou pas?
Pas du tout.
Alors, Ted Lasso, c'est quoi?
C'est un mec qui a un lasso.
C'est ça.
Je suis obligé de la faire, hein, je suis désolé.
C'est une nouvelle série Apple TV+. Alors, Apple TV+, jusqu'ici, ça n'a pas vraiment été le sans faute. Pour moi, il n'y avait vraiment qu'une seule série qu'on pouvait sauver du naufrage, c'était For All Mankind. Les autres, je n'ai pas du tout été convaincu. Alors, à la base, Ted Lasso, c'est un personnage, en fait, qui était interprété par Jason Sudeikis. Tu vois qui c'est, hein?
Ah,
acteur
oui, oui.
Ex du SNL, qui a joué dans un paquet de comédies américaines.
J'adore.
Et donc, il y avait une série de publicités, en fait, pour annoncer la couverture par NBC de la Premier League, donc le championnat de football anglais, et ils avaient donc recruté Sudeikis qui avait inventé ce personnage de Ted Lasso qui est en fait un coach de football américain dans la série pour qui a été recruté en fait pour entraîner une équipe de foot anglais, en l'occurrence le AFC Richmond, alors qu'il n'a évidemment aucune expérience du foot européen. On le découvre assez rapidement d'ailleurs, cette embauche en fait masque des intentions cachées, mais je vous en dis pas plus. Alors on pourrait se dire ouais bof, encore une série en mode poisson hors de l'eau, et à la base c'est un peu la raison pour laquelle moi j'y suis allé en traînant des pieds, et au final en fait je me suis fait happer parce que c'est une série qui est super feel good. Lasso, c'est un personnage qui est très très frais. Il a des apparences au début de ricain un peu concon avec son gros accent à couper au couteau, et en fait c'est un mec super intelligent et super empathique, et pour lui en fait la victoire est moins importante que le fait que les gens soient heureux autour de lui. Alors il traverse un divorce en plus, donc c'est un peu compliqué, il est loin de sa famille, enfin c'est un personnage ultra sympathique, enfin qui m'est apparu ultra sympathique et ultra humain, et du coup je me suis super vite attaché, et il a un binôme qui est assez incroyable, qui est un mec un peu taciturne, qui parle pas beaucoup, qui s'appelle Coach Beard parce qu'il a une grosse barbe, et qui fonctionne super bien dans la dynamique avec Sudeikis. Alors c'est une série qui a été co-développée par 4 personnes, Sudeikis d'un côté et Brendan Hunt qui est donc l'acteur américain qui incarne Coach Beard, mais aussi Bill Lawrence qui était quand même le créateur de séries mythiques comme Scrubs ou Spin City. Et puis Joe Kelly, qui est un scénariste assez jeune, qui lui a bossé sur des épisodes de How I Met Your Mother ou de SNL. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose d'assez léger, de feel good, d'humaniste, en ce moment, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, je recommande. Il y a une première saison qui est prévue donc pour 10 épisodes. Il y en a 4 qui sont disponibles pour le moment sur Apple TV+, et ils ont d'emblée commandé une saison 2, donc quelques jours après la diffusion du pilote, donc ils sont assez confiants. Donc voilà, Ted Lasso, je vous ai linké le trailer qui est pas forcément représentatif. Moi, ça m'a pris 2 épisodes pour vraiment bien rentrer dedans et m'attacher au personnage, donc voilà, donnez-lui sa chance, Ted Lasso, je pense, le mérite. Et puis je voulais parler musique aussi, et je cite Caf tout à l'heure en préparant l'émission, qui m'a dit qu'est-ce que c'est que cette tag boom. Je voulais vous parler d'Happiness en fait. Happiness, c'est un album qui est cher à mon cœur, c'est un album qui était sorti à la base en 90, et c'est un groupe donc qui s'appelle The Beloved, qui est composé d'un duo, donc John March et Steve Wellington. À la base c'était une formation qui remonte à beaucoup plus tôt, en 83, il y avait 4 membres, et à la base ils faisaient plutôt de la pop new wave à la sauce New Order, et puis fin des années 80 en fait ils vont découvrir la musique électronique et plus particulièrement la house music. Le groupe est alors réduit à 2 membres, donc John March et Steve Wellington dont je parlais tout à l'heure, et ils vont donc produire cet album Happiness qui va mélanger pop et son house, un album qui va cartonner aussi bien du côté critique que du côté des ventes. Le seul petit souci qu'il y avait par rapport à cet album, c'est que en fait le master original n'était pas terrible, donc le son de l'album était un peu daté, le volume était vraiment très très bas et pas très punchy, ce qui était un peu dommage. Et en 30 ans, ils n'ont pas sorti un seul remaster. Pourtant, il y a quand même une grosse mode des remasters un peu partout, donc c'était un peu surprenant. Et là, ils ont enfin décidé de s'y mettre, donc ils ont sorti pour fêter les 30 ans de l'album, ce qui m'a filé un joli coup de vieux au passage. Ils ont sorti donc un nouveau remaster à une édition spéciale double CD, avec donc l'album remasterisé sur la première galette, et puis une deuxième galette avec des inédits, des démos et des remixes qui sont assez anecdotiques, mais pour les fans du groupe, ça vaut toujours le coup d'oreille. Et pour ceux qui ne connaissent pas de Beloved, je pense qu'il y a un morceau que vous devez connaître. Si vous traîniez en club au début des années 90, vous avez dû l'entendre au moins une fois. Un morceau qui s'appelle The Sun Is Rising, c'était le deuxième single de l'album, et je vous propose qu'on en écoute un extrait. The Sun Is Rising, The Beloved, qui avait caracolé dans le top 40 au Royaume-Uni au moment de sa sortie. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cet album, Happiness, jetez-vous sur le remaster. Et puis on va passer du côté de la tech avec Clock Tuner pour Reason.
Si voilà, tu as. Ah, t'as vu ça. Et là, tu te dis, mais alors là, je me barre. Oui, bah, tu viens de nous parler d'un truc en club des années 90. T'imagines, il y a des gens qui étaient pas nés, quoi. Alors moi, je vais parler d'un truc dans le présent, un truc qui est une bonne surprise, sauf pour Intel. Parce qu'Intel, ça va pas les faire rire, évidemment.
Il y a rien qui les fait rire en ce moment.
Non, en ce moment, ils sont pas morts de rire chez eux. Enfin, attention, hein, ils gagnent encore plein de fric, hein, tout va bien. Enfin, tout va bien. On se comprend. Mais, donc, Clock Tuner pour Ryzen, qu'est-ce que c'est que ce CTR? C'est un truc fait par un sacré bricoleur de génie, en fait. Un mec qui code chez lui, hein. C'est pas fait par AMD du tout. C'est un programme qui va sortir au mois de septembre, donc ne le cherchez pas sur le net, là, tout de suite. Je vous ai linké différentes choses pour qui en parlent. Un billet sur Guru 3D et une vidéo chez Linus Tech Tip. Et en fait, c'est un petit soft qui va optimiser les performances de votre Ryzen Zen 2, les nouveaux, ceux qu'on a tous, entre guillemets, achetés cette année, en fin d'année dernière, quand on a upgradé nos bécanes. Et c'est un vrai coup pas rigolo, parce que en fait le truc ne casse pas votre machine, il upgrade en fait vos performances sans mettre en danger votre matos. En fait, il optimise, il overclock un petit peu votre produit, donc vous gagnez en performance un petit peu, mais le tout en fait avec une option qui est extrêmement utile, vous baissez la consommation. C'est-à-dire d'habitude quand on overclock, on booste la consommation électrique, ça va avec, et puis ça chauffe un peu plus. Et puis généralement tu as des problèmes de stabilité, il peut y avoir des soucis de ce genre là, et donc on a une espèce de barrière physique qui se met en place. Là le truc ne va pas du tout dans cette direction là, en fait le mec s'est rendu compte que ses CPU on avait encore sous le pied, que les réglages en fait d'AMD étaient extrêmement conservateurs justement pour pouvoir avoir des produits hyper stables dans toutes les circonstances, et puis surtout vous savez que chaque puce qui sort d'une usine en fait est différente. Vous avez ce qu'on appelle le yield sur les wafers, sur les grosses plaques qui sortent des usines avec les CPU qui sont dessus, et ils sont pas tous égaux. Des fois il y a même un morceau de CPU qui marche pas, et ça leur fait des pertes sèches qui sont assez chiantes. C'est pour ça que vous allez avoir chez tous les fabricants de processeurs, y compris chez les Nvidia et compagnie, sur les côtés GPU, des fois des trucs avec moins de cœurs d'activer. Quand on achète un Ryzen, il y a différentes catégories et il y en a qui ont 8 cœurs, 12 cœurs, etc. Fondamentalement, alors évidemment là c'est pas le cas, mais ça c'est souvent des processeurs qui en fait sont issus des mêmes batchs. C'est juste que quand il y en a qui sont analysés où il y a des cœurs qui ne fonctionnent pas, on les market avec le nombre de cœurs qui fonctionnent, si tu veux. Alors, je dis pas que c'est dans le cas de Ryzen, c'est un petit peu différent sur les certaines gammes, mais c'est un classique, pour vous citer un exemple extrêmement connu dernièrement, les iPads qui sont sortis en 2020 sont exactement les mêmes iPad Pro que ceux de 2018, sauf que ils ont fait des progrès sur les capacités de fabrication de leurs processeurs, et il y a un core d'activé en plus, mais c'est exactement le même que dans ceux de 2018. Sauf qu'en 2018, il y avait en sortie d'usine, il y avait souvent un corps qui merdait. Donc, en fait, il le désactivait de base, en fait. Enfin, celui qui était mort, il dégageait. Et tout le monde disait que c'était normal, entre guillemets. Donc voilà, on reste sur des choses comme ça, et on s'aperçoit que ce logiciel, qu'on est capable de gratter, en fait, et tout est automatisé, en plus, c'est ça la beauté de ce soft, on peut gratter un peu de performance, et les premiers tests sont assez rigolos. Par exemple, sur un 3900X, les mecs ont réussi à avoir 7% de performance en plus, donc juste en lançant le soft, mais surtout une consommation électrique inférieure de 10%, okay. De 9,5. Donc t'as un truc qui chauffe moins, qui fonctionne mieux, et ça t'a coûté zéro. Écoute, donc voilà, je voulais vous en parler. Les liens sont dans le billet qui accompagne le podcast. Je vous mettrai peut-être un lien définitif dans le forum qu'on aura l'adresse où on peut télécharger tout ça. Mais on peut dire merci à ce monsieur qui avait déjà en fait fait parler de lui en sortant un outil qui permettait d'optimiser la fréquence de votre mémoire. Mmh. Donc ça, il en est pas à son coup d'essai, et a priori, je sais pas, il faut peut-être le recruter. Hein, je sais pas, peut-être Intel d'ailleurs. Peut-être que vous avez peut-être besoin de lui. C'est peut-être le moment. Mais c'est assez rigolo, donc de voir le truc, et tout est expliqué sur le billet qui accompagne le podcast. Vous aurez quelques trucs, un peu de patience, quelques trucs à installer, surtout le Ryzen Master, l'outil AMD en fait, qui va permettre à ce tool là de récupérer ces informations, et puis un petit peu de temps puisque il est obligé de tester votre machine pour voir comment il va l'optimiser de manière automatique.
Nice. Et puis on va terminer cet épisode de Torréfaction avec un rant.
Ça fait longtemps. Jingle Magnéto Serge.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Et cette fois-ci, on va parler d'un drame de société dont on ne parle pas assez, c'est le suicide chez les disques Blu-ray.
Eh ben oui, parce que, je ne savais pas, parce que moi, tu sais, je suis passé effectivement à l'époque numérique, un petit peu rapidement, on va dire, et j'ai pas acheté énormément de Blu-ray dans ma vie.
Moi non plus.
Mais apparemment, les collectionneurs ne sont pas très contents, et quelques amis qui sont à fond dans le domaine m'ont demandé de parler de ce problème de société qui ne fait pas les gros titres du 20h. Et en fait, je les comprends, parce que quand t'as une collecte de Blu-ray, tu te dis, c'est des films que j'ai achetés pour la vie, je pourrais les regarder quand je veux. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas le cas. Des fois, vous allez être obligé d'aller le retélécharger chez Bob VHS, voire de le regarder en streaming avec des résolutions pas forcément fabuleuses, alors que vous étiez dit, je l'ai acheté en Blu-ray, c'est ma collègue, ça ne craint rien. Eh bien non, il y a des usines qui ont fabriqué des Blu-ray à certaines époques avec une résine toute pourrie, qui en fait n'est pas stable dans le temps.
Super.
Et du coup, votre truc, il n'est pas lisible dans son lecteur au bout d'un moment. Donc évidemment, ça ne touche pas tous les titres, puisque évidemment, ce sont des problèmes liés à certaines résines, dans certaines usines. Mais là où les mecs sont pas contents, c'est qu'on a dit dans l'industrie que ces problèmes étaient vraiment limités à des fabrications 2007, 2008, etc. Or, c'est totalement faux. Il y a des problématiques sur des trucs beaucoup, beaucoup plus récents qui, a priori, sont exactement les mêmes. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait chier avec à faire un site qui s'appelle blu-ray-defectueux.com et avec la résine m'a tué ER. Tout le monde aura la référence en France, en tout cas, qui liste, en fait, tous les titres qui sont touchés et qui essayent de faire du bruit autour de ce truc-là. Alors, évidemment, il n'y aura jamais de class action. Ça n'existe pas en France. On n'espérait pas récupérer des sous pour récupérer d'autres Blu-ray. Il y a des changements qui ont été faits à une certaine époque, mais ce n'est plus possible, parce que les mecs savaient très bien. Donc, il y avait un process qui avait été mis en place, justement, pour remplacer quand même ces trucs-là. Mais évidemment, ils n'ont pas trop fait de bruit autour, parce que ça aurait coûté des sous. Et donc, ils ne se sont pas vantés de ce truc-là. Et si vous aviez mis de côté quelques éditions de films que vous adorez et qui ne fonctionnent plus, c'est bien de le savoir avant de s'installer devant la télé pour les regarder.
Ah oui.
Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Et moi, ça m'a fait marrer, parce que ça m'a fait marrer. J'en ai que 5, donc forcément, moi, mes risques étaient limités. Mais ça m'a rappelé, en fait, une problématique qu'on a eue à l'époque des laserdiscs. Oui, je sais, tout à l'heure, je me suis foutu de ta gueule, tu parlais des trucs des années 90, mais on y retourne à fond la caisse, parce qu'en fait les laserdiscs, pour ceux qui se rappellent de cette époque, de ces gros disques qu'on mettait dans des gros lecteurs, il y avait des doubles faces en fait, et ces doubles faces en fait c'était deux faces qui étaient collées l'une avec l'autre, et ça n'a pas loupé, il y a des usines qui ont utilisé des colles qui étaient pourries et qui donc allaient bouffer la résine à l'intérieur de chacune des faces. Putain. Ce qui donnait évidemment le même problème. Alors c'était un mélange d'analogique et du coup à l'époque ça n'empêchait pas forcément la lecture dès le départ, mais on va dire que l'image était pas fantastique quand évidemment le truc arrivait encore à le lire. Donc c'est des problématiques de fabrication et de vraiment industrielles qui sont chiantes. Il y a derrière des process chimiques un peu pénibles, etc. On comprend, mais on aimerait bien que vous fassiez votre métier, messieurs, puisque derrière c'est notre argent et notre passion qui en prend un coup. Donc voilà, les gens ne sont pas très contents. C'est pour ça que je vous ai linké le site qui parle de tout ça cette semaine.
Et je suis bien content de ne pas avoir investi dans les Blu-ray, moi, de ne pas avoir remplacé toutes mes collections de DVD par les Blu-ray.
Tu m'étonnes.
Et c'est la fin de ce 143e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, eh bien, moi, je vais aller boucler mon bouquin, enfin, ça y est. Toi, oui. Je sais pas ce que tu vas faire de ton côté.
Je vais faire des trucs, je ne sais plus, j'ai des trucs à faire, mais là, ça m'échappe. Et la semaine prochaine, il y aura des news sur le site, c'est promis, oui on fera des trucs, c'est la rentrée, yeah.
Tu vois, je pense que je vais l'utiliser comme jingle pour annoncer la rentrée, justement, tiens, ça sera parfait.
J'étais crédible, hein, t'as vu. Donc oui, on a était un petit peu mou du genou sur le site là, mais ça va revenir. Et puis du coup on a plein de choses à terminer, à boucler, tout ça, ne vous inquiétez pas, on est présent, on est là.
Et puis je crois qu'on peut en profiter, tiens, pour l'annoncer, on a pris une décision que énorme, hein, c'est pas un gros changement, mais ça va faire plaisir aux abonnés Patreon, puisque on a décidé à partir de la rentrée de vous filer l'épisode de Torréfaction, et bien après le montage, dès qu'il est disponible, donc le jeudi soir plutôt que le vendredi matin, pour ceux qui veulent écouter ça en allant se coucher par exemple le jeudi, pour écouter nos douces voix en allant faire dodo.
Et bien se moquer quand on dit donc vendredi.
Voilà, c'est
pendant
ça.
Tout le podcast.
Ils seront complètement déphasés, c'est pas grave. On en reparlera quand ça sera officiel, mais voilà, on voulait déjà vous en parler parce que on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa et qui demande pas trop de boulot non plus pour nos abonnés Patreon, et on s'est dit que passer Torréfaction le jeudi soir, c'était plutôt une bonne idée.
Vous pourrez le télécharger, il sera prêt, ready to go pour votre trajet que vous ferez plus grâce au Covid-19 ce vendredi matin.
Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.